Bonjour. Vous allez entendre l'enregistrement du colloque du 21 janvier 2026 organisé à la Maison des Réfugiés à Paris, intitulé « Quelle psychanalyse pour penser les dominations et soigner leurs effets ?» Intervention de Malika Mansouri, le colonialisme de peuplement et ses traumas.
Accueillons avec toujours autant de joie et de remerciements d'ailleurs pour ta présence, Malika Mansouri. Alors, Malika Mansouri, qui est avant tout psychanalyste, on peut dire, on peut faire la porte d'entrée par la psychanalyse. Tu es également professeur de psychologie clinique à l'Université de psychologie clinique, Université Sorbonne Paris Nord, c'est ça ? Membre aussi de l'UTRPP. Alors, tes thèmes de recherche sont la clinique des marges, les enjeux psychiques des silences sur les violences individuelles et collectives, les traumas historiques et les transmissions générationnelles et la clinique du bébé. Alors, on se rappelle tous de ton livre qui était aussi un tournant pour nous tous, Les révoltes postcoloniales au cœur de l'Hexagone. Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire sur des événements donc, sociaux, sur les révoltes des banlieues et ce que ça a déclenché dans le désir de recherche de Malika. Et tu as continué donc sur ces questions-là. Et ton dernier livre, co-dirigé avec Marion Feldman, « Les enfants séparés par le politique », voilà, aux éditions InPress. Voilà, on te laisse la parole.
Alors, bonjour tout le monde. C'est un petit peu difficile de passer sur... Après toutes ces histoires d'inceste, je dirais, compliquées, angoissantes, si... Bon, très intéressantes aussi. Hein. Du coup, j'aurais presque envie de dire que ce n'est pas si éloigné mon terrain, même si ça n'a rien à voir, puisque ce qui me préoccupe, moi, beaucoup, en tant que psy, je vais mettre psy, je vais pas, on met ce qu'on veut après, pour moi, ce n'est pas le plus important. C'est comme folie, j'aime bien aussi, c'est bien, c'est pas le plus important les catégories. Donc je suis une psy mais je m'appelle Malika Mansouri. Donc ce que moi j'ai dans le ventre, je dirais, dans le langage transculturel, c'est bien d'autres histoires d'abus, voilà, des abus de toutes sortes qui comprennent les abus sexuels, hein, puisque pour les problématiques liées à l'esclavage ou au colonialisme, on parle peu, trop peu, de ce qu'on a fait du corps des femmes. Et pas que, d'ailleurs. Mais ce n'est pas mon propos d'aujourd'hui. Mon propos d'aujourd'hui, c'est de tenter de participer du débat proposé par la thématique du jour, mais à partir de qui je suis et de ce que moi je travaille et que je mets au travail, d'ailleurs. Alors, pour me présenter, puisque tout le monde l'a fait, je dirais que la clinique du bébé, là, qui est venue en dernier, était en fait mon premier lieu d'exercice. La clinique du bébé, c'était, je dirais d'ailleurs que ce n'est ni Lacan ni Freud qui m'a formé, mais bien le bébé avec lequel longtemps j'ai travaillé en hôpital de jour, en pédopsychiatrie. Et c'est lui qui m'a formé. Il m'a formé à quoi ce bébé ? Ces bébés, ils m'ont formé à entendre ou à écouter, plutôt, ou les deux. Oh là là, il y a du monde que je connais, c'est très surprenant, c'est charmant aussi, mais bon, un peu, oui, bon. Merci d'être à ces journées. Et d'ailleurs, merci à Claire et à Daniel pour les avoir organisées, parce qu'elles sont rares, ces journées-là. Donc, ce bébé m'a appris ce que ça voulait dire domination. C'est vrai, en lien avec ses parents, parce que c'est là que ça se joue au départ, hein, selon ce qu'on y fait dans ces liens-là, dans ces foyers, dans l'intime. Et puis, ça m'a emmenée sur le terrain du social et du politique un peu plus tard, formée par les bébés. Les bébés au sens de ce qui ne peut pas se dire, parce qu'il n'y a pas le langage, tout simplement. Ce qu'on entend là, ce sont des récits d'adultes qui viennent, ou en tout cas de ceux qui maîtrisent le langage et qui peuvent dire. Donc, ce qui nous ramène au trauma d'emblée, de ce qui est de l'ordre de l'indicible ou de l'impensable, cette clinique des bébés. Cette clinique des bébés m'a amenée aussi ensuite à ouvrir le regard autrement et l'écoute autrement sur des phénomènes sociaux et historiques. Des phénomènes sociaux et historiques qui n'étaient entendables par personne, visibles par personne. C'est vrai qu'à l'époque des émeutes, c'était un peu un premier travail sur ces questions-là, qui venait questionner l'impact du collectif, de l'histoire collective sur ceux qui étaient les acteurs de ces mobilisations sociales, de ces révoltes. Bon, ça c'était hier, hein, c'était il y a quelque temps maintenant, mais c'était hier, c'est mon histoire. Et puis il y a l'actuel. Et puis je me rends compte surtout que dans l'actualité brûlante qui est la nôtre, eh bien on en est toujours au même point. Et qu'il ne sert presque à rien de dire, d'écrire, de transmettre, quand tout cela n'est utile à rien. Alors, en premier lieu, mon propos, c'est de parler de domination. Qu'est-ce que c'est la domination ? Ensuite, la psychanalyse, ça n'est pas la priorité. Il est mille et une façons, et c'est pour ça que je dis, psy, mettez ce que vous voulez derrière, psychanalyste, psychologue, psychothérapeute, ce n'est pas le plus important, pour moi, en tout cas. Ce qui est important pour moi, c'est d'être à l'endroit d'une écoute juste de ce que l'autre porte en lui et que potentiellement il ne peut pas mettre en mots parce que ça ne peut pas être accueilli si on n'en sait rien de ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en sait de l'actualité contemporaine? Qu'est-ce qu'on en fait dans des journées sur les dominations? Qu'est-ce que les psychanalystes font de ça? Aujourd'hui, il se passe plein de choses dans le monde. Aujourd'hui. Alors j'avais écrit... Je me suis lancée sur la dynamique de la discussion au micro. Et je peux faire ça pendant des heures, mais je vais quand même vous dire ce que j'ai écrit parce que je l'ai structuré, mon propos. Alors, je vais essayer de l'utiliser. Ce que je pense profondément, c'est que si on relie la question de la psychanalyse et des dominations, le plus gros problème a à voir avec la tendance collective chez les psychanalystes à s'enfermer, s'aveugler dans une forme d'universalité abstraite. L'universalisme, c'est beau, hein ? Mais s'enfermer dans un universalisme abstrait, c'est, de mon point de vue, bien malgré soi, aussi bienveillant soit-on, s'enfermer dans un dogmatisme dangereux, qui ne permet pas de déployer une écoute ajustée, mais au contraire de nous placer, nous, psy, dans des positions de supplétifs, et des dominations d'hier et de celles d'aujourd'hui. Comment y entendre quelque chose de ça? Bon, j'imagine que Tammy Ayouch en a beaucoup parlé ce matin, et d'autres aussi, de se situer, de savoir d'où on parle. Tout le monde l'a un peu fait, hein. Tout le monde a joué le jeu, j'ai l'impression. Mais de se situer, pour ma part, je dirais, pas seulement du côté de mes filiations, papa, maman et l'histoire de mes parents, mais aussi de mes affiliations. À qui j'appartiens, en quelque sorte? C'est ça la question. À qui j'appartiens dans mes idées, dans mes idéologies, dans mes concepts. À qui j'appartiens, c'est aussi toute une dimension politique qui m'affilie, quelque part, et qui dessine, teinte mes représentations de la réalité qui est en train de se jouer, c'est-à-dire de l'histoire qui est en train de s'écrire aujourd'hui dans le temps T où nous le vivons, sans trop en parler, encore une fois. Qu'est-ce que ce silence? Est-ce de la silenciation? Est-ce du manque d'autorisation? De quoi s'agit-il? Est-ce de la peur? Probablement un peu de tout ça. On va y revenir. Revenons à l'universalisme abstrait. L'universalisme, c'est super l'universalisme. Hein. Ça vient d'une belle idée, celle de la République, qui a fait prévaloir une unité du genre humain qui nous rassemblerait tous, au-delà de nos diversités culturelles. Un bel héritage des Lumières, Descartes, Spinoza, etc., dont le but magnifique était d'octroyer à tous les citoyens d'une même nation des règles, des valeurs, des principes communs et que ces principes s'appliquent à tous, quelles que soient leurs particularités culturelles ou religieuses. Est-ce le cas aujourd'hui, si ce n'est qu'en Hexagone ? Est-ce le cas aujourd'hui, réellement ? Et que disons-nous, nous ? Que faisons-nous de ça, nous ? Nous, les psys ? Qu'est-ce qu'on en fait ? La réalité aujourd'hui est très violente. J'avais encore des étudiantes qui pleuraient récemment dans une de mes, dans mes cours pour avoir été un peu mal dans leur lieu de stage en lien avec toutes ces questions-là. Aujourd'hui, c'était la semaine dernière. Pour tout vous dire, la semaine dernière. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, de ça ? Est-ce qu'on y regarde un peu ? Est-ce qu'on s'interroge sur tout ça ? Parce qu'on peut, on peut parler longtemps de la guerre de 14-18, hein, mais la guerre, elle est là aujourd'hui. Hein, on a affaire avec ça. Qu'est-ce qu'on fait de ça, nous, aujourd'hui, de toutes ces souffrances qui sont en train de se dérouler sous nos yeux ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, ces principes, ces beaux principes de la Révolution française, qui visaient alors à fonder une république une et indivisible, est consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ça c'est super, on le sait à peu près, pas tout le monde connaît les dates et tout, hein, c'est pas vrai si j'interroge, mais bon, moi je l'ai noté comme ça j'oublie pas. Et bon. Mais ces beaux principes magnifiques, hein, franchement, hein, qui pourrait dire le contraire ? Ce sont justement ces beaux principes. C'est justement cet universalisme que la, par cet universalisme que la France deviendra un pays colonisateur et investi d'une mission émancipatrice. Elle est civilisée. Bon, il y a des questions économiques toujours sous-jacentes, hein, bien sûr. Hein, mais bon, l'idéologie était celle-là. Elle est colonisée, civilisée, pour civiliser, par la force, souvent brutale et meurtrière, des populations lointaines et qui n'avaient strictement rien demandé. Le bel universalisme se transmute alors en un terrible système d'oppression. Là, on est purement dans la domination directe, réelle, des corps et des esprits. La dimension coloniale de la France, si elle est assumée par certains, n'est toujours pas véritablement enseignée en réalité. Souvent, je m'amuse, dis, vous savez, où était la capitale de France pendant la Seconde Guerre mondiale ? Elle était où, la capitale de France ? D'abord Brazzaville, puis ensuite Alger, pour la France libre. Bien sûr, Vichy, c'est l'autre France, oui. Est-ce que vous le saviez ? Quelques-uns, les anciens peut-être. Alors, il faut continuer à transmettre à la jeunesse, parce que... Mais c'est déjà rassurant que quelques-uns le sachent. Hein. C'est notre histoire collective à tous. Ça ne correspond pas à une histoire qui appartiendrait uniquement aux colonisés là-bas. Alors, ce récit officiel occulte notamment les nécessaires violences, nécessaires, bien sûr, pour les dominants. Violences perpétrées lors des conquêtes coloniales. Pour l'Algérie, par exemple, que je connais bien, évidemment, je m'appelle Malika Mansouri, filiation algérienne, etc., voilà. Pour l'Algérie, par exemple, née à Paris quand même, je précise, il y a longtemps donc. Pour l'Algérie, la conquête, on parle souvent de la guerre d'Algérie, c'était terrible, on a tué, ils nous ont tués, on leur a fait du mal, ils nous ont fait du mal. Ça, on peut le dire à peu près maintenant. Mais la conquête algérienne a duré 17 ans. 17 ans. Elle a duré 17 ans. Alors, il y a eu des résistances, hein, évidemment, hein, quand on vient nous coloniser, on n'est pas toujours dire « oui, super, vous venez nous civiliser, on est content ». Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Bon, il a fallu mettre en place des systèmes infernaux, des colonnes infernales notamment, menées par un certain général Bugeaud. Alors c'est super parce qu'il y a des endroits où on a encore des noms de rues au nom du général Bugeaud. Alors on imagine des statues et donc on imagine les effets que ça peut faire à ceux qui, eux, ont subi cet homme-là dans leur filiation, puisque moi j'ai pas connu cette histoire, mais on en hérite très fort de ces folies collectives. D'où mon travail, hein. Il y en a d'autres qui font d'autres choses avec ça, moi ça va, hein. Bon, et d'autres font ce travail aussi, hein. Alors il s'agit là, ces colonnes infernales, il s'agit d'enfumade en fait. On parle d'enfumade, c'est un petit peu connu maintenant, un petit peu, on en parle enfin un peu, un tout petit peu. Des enfumades qui consistaient à regrouper des villages entiers dans des grottes pour les asphyxier, ces villages entiers, avec la fumée produite par les feux placés intentionnellement à l'entrée de ces grottes. Le but, assassiner plus rapidement. C'est la France, hein. C'est ça la domination, hein. Assassiner plus rapidement des hommes, des femmes et des enfants, sans distinction aucune. Ça a pu s'organiser, ça, autour de l'idée selon laquelle ces populations locales, là quand même, ils exagèrent, sont insoumis et ils sont résistants. Ça, c'est problématique, hein. Du coup, on a considéré qu'ils étaient des ennemis de la République. Ça, récemment, on l'a entendu, les ennemis de la République, mais les ennemis de la République sont devenus des ennemis intérieurs de la République, hein, avec le terrorisme, etc. Mais on avait déjà les ennemis de la République chez les récalcitrants qui ne se laissaient pas coloniser. De fait, ils pouvaient donc être anéantis, voire même ils devaient donc être anéantis, écrivent les historiens. Les objectifs militaires d'alors avaient pour conséquence la destruction massive des villes, des villages, des cultures. Dès lors, les villageois étaient enfumés, comme on vient de le voir, ou bien encore emmurés dans les grottes où ils se réfugiaient pour résister aux colonnes mobiles. Il s'agit là d'une guerre totale, d'une nature inédite, et qui s'est produite par les, qui s'est traduite plutôt par l'extermination d'un tiers, un tiers de la population algérienne. Ça, c'est la guerre de conquête. Un tiers de la population algérienne a été éliminée, on n'en parle jamais. À part le cours Grand Maison, qui est un super historien, et qui, évidemment, est nécessairement très décrié par d'autres. Alors, le terme génocide, compliqué, est-ce qu'on peut parler d'un génocide là, pour la conquête de l'Algérie? Point d'interrogation. De toute façon, le terme n'existait pas. Il a été créé en 1944. Génocide, géno, ça veut dire race, en grec, et cide, tuer. Tuer la race, en face de moi. Alors, selon, pas définir tout ça ici, on a un juriste pas loin, on pourra lui demander, Elie Le Tourneur, pas juriste, mais il connaît bien. Selon la Charte universelle des droits de l'homme de l'ONU, le génocide se définirait comme l'élimination systématique, organisé et planifié d'un groupe de personnes. Il est perpétré par un groupe en raison de sa race, de son appartenance ethnique, de sa nationalité ou de sa religion. Le génocide est considéré, je n'arrive même pas à lire, vous voyez, je bégaye à chaque fois que j'essaie de prononcer ce mot. Le génocide est considéré comme la forme la plus extrême du crime de guerre et du crime contre l'humanité. Je disais qu'il avait été créé en 1944 pour penser évidemment le génocide des Juifs par les nazis. Hein. En Algérie, à l'époque de la conquête, donc, le mot génocide n'existait pas. La seule reconnaissance récemment concédée par le président de la République, Emmanuel Macron, je disais des dominations, elles sont là les dominations. Comment penser l'actuel? Comment tenir quelque chose, de se tenir informé, construire, participer de l'histoire du temps T et ne pas seulement d'en parler au passé quand il n'y a plus possibilité d'agir ou de penser quoi que ce soit. D'ailleurs, la façon dont les choses s'organisent nous amène justement à ne pas pouvoir penser. Hein, mais je vais voir ça avec vous après. Vous pourrez me dire que vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave. En tout cas, moi, j'ai essayé de réfléchir à cette journée et de construire un propos. Et ça m'a emmené loin. Hein. Je pense que beaucoup d'entre vous ont lu 1984, Orwell. Et on va y revenir pour penser l'actuel, justement, tout comme les dominations d'hier. Donc la seule reconnaissance par notre président de la République en 2018 concerne une date exclusive, celle de la répression sanglante du 8 mai 45 en Algérie, reconnue comme un crime contre l'humanité. 8 mai 45 en Algérie, ça vous parle? Oui, merci, un peu d'histoire partagée. Donc exit, là, la guerre de conquête en Algérie. Un tiers de la population exterminée, il n'en est pas question. Exit la guerre de conquête, alors même que la colonisation de l'Algérie comporte cette spécificité plutôt rare au regard des formes qu'a pris l'impérialisme occidental, c'est-à-dire celle d'être une colonisation de peuplement. D'où l'intérêt de parler de l'Algérie et de penser l'actualité à partir de cet exemple. Comment imaginer, honnêtement, Comment, aussi bienveillant soit-on, comment imaginer pouvoir envoyer des foules s'installer sur des terres déjà habitées sans penser qu'il faudrait nécessairement faire de la place? Il y a des habitants sur ces territoires. Qu'est-ce qu'on en fait si on envoie nos foules occidentales s'installer là-bas? Nécessairement, on génocide. Il n'y a pas le choix. C'est un principe qui est inhérent au fait même d'une colonie de peuplement. Alors, on n'y pense pas. Est-ce de l'impensé, vraiment? Toujours est-il que j'ai été nourrie, moi, biberonnée par les ouvrages de Madame d'Avoine et de son compagnon. Vous êtes avec vous, votre mari, pardon. Et que j'avais noté là une phrase que j'aime beaucoup chez vous, donc que je vais vous citer. Comme l'indiquent d'Avoine et Godillière, puisque vous étiez tous les deux, quelles que soient les mesures prises pour effacer faits et gens de la mémoire, les éradications, même parfaitement programmées, ne font que mettre en marche une mémoire qui n'oublie pas et qui cherche à s'inscrire. On est dans Histoire et trauma, la folie des guerres, 2006, page 36. Inaccessible à la pensée et au langage, cet indicible passé insiste à vouloir se montrer. À travers le corps mémoire, oui, les émotions impérissables s'imposent et s'exposent, j'insiste, et nous pouvons l'observer quotidiennement dans notre société contemporaine, notamment avec les problématiques liées au voile islamique, etc., etc., etc. Aujourd'hui, la même chose qu'en Algérie. Se produit en Palestine. Les débats font rage, mais le terme de génocide est encore controversé. Tout comme pour l'Algérie, en son temps, les Palestiniens supportent une colonisation depuis des décennies, et ce, bien avant 1948. Un très beau film vient de sortir, là. Ça s'appelle Palestine 36. Vous en avez entendu parler ? Enfin, très beau film. Disons qu'il raconte des choses qu'on ne connaît pas. Bon, voilà. C'est donc très bien de s'informer. Avec des images d'archives, en plus. Et là, nous retrouvons finalement ce qu'on met toujours en parallèle, une guerre de religion entre juifs et musulmans, etc. Rien à voir, hein. On est dans l'impérialisme occidental en réalité. Enfin, rien à voir. Ça se joue comme ça sur le terrain aujourd'hui. Mais c'est la réalité, c'est ce que Tiken Jah Fakoly, vous connaissez ? Yes. Ils chantent, hein. Ils se sont partagés le monde. Plus rien ne m'étonne. Écoutez-la, cette chanson, si vous ne l'avez pas encore écoutée. Là, les terres, en fait, sont partagées entre les Britanniques et les Français. Les Français sont plus aller du côté du Liban, puis les Britanniques, plus du côté de la Palestine. Voilà, la Palestine sera britannique, elle est britannique, et puis les terres seront progressivement confisquées et redistribuées aux rescapés juifs des camps nazis par les Britanniques qui, voulant garder la mainmise sur le territoire, utilisent alors les rescapés de la Shoah, parce qu'occidentaux, pour venir s'affilier et permettre ainsi que les Arabes récalcitrants soient un peu plus, je ne sais pas quoi, nommer ça c'est dur. Alors on est là encore avec les Anglais et les Français, hein, on est encore avec le colonialisme, l'impérialisme occidental en réalité. Hein, et qu'on arrête de nous raconter une histoire de religion, ça n'est pas la réalité. Alors, moi j'aime beaucoup Ilan Pappé, un historien israélien, justement, qui, évidemment, par ses propos, est très décrié. Ilan Pappé a écrit un ouvrage qui s'intitule « Le nettoyage ethnique de la Palestine » en 2006. La traduction en français, je l'ai lu en français, évidemment, je ne suis pas très bonne en anglais, encore moins en d'autres langues. Traduction en 2023. Donc, je le cite, page 18-19. La politique sioniste s'est d'abord fondée, en février 1947, sur une logique de représailles contre les attaques palestiniennes. Puis, en mars 1948, elle a pris l'initiative d'un nettoyage ethnique à l'échelle du pays. Une fois la décision prise, il a fallu 6 mois pour l'appliquer. Quand tout a été fini, près de 800 000 personnes, plus de la moitié de la population de Palestine donc, avaient été déracinées. 531 villages détruits, 11 quartiers vidés de leurs habitants. Le plan décidé le 10 mars 1948 et surtout sa mise en œuvre systématique au cours des mois suivants ont été un cas clair et net, dit-il, de ce nettoyage ethnique que le droit international actuel considère comme un crime contre l'humanité. Les méthodes utilisées, évacuation des habitants de force, par intimidation massive, siège et pilonnage des villages, des quartiers, incendie des maisons, des biens, des marchandises, expulsion, démolition, pose de mines dans les décombres pour empêcher les expulsés de revenir. Cette version des faits historiques, Dylan Pappé, concernant ce que les Palestiniens appellent la Nakba, Nakba, catastrophe exactement en français, est évidemment niée. Cacher la réalité objective était encore à peu près possible à l'époque. Souvenez-vous, on est en 1947, ici 1948. Aujourd'hui, il est devenu impossible, quasi impossible, de dissimuler des crimes contre l'humanité lorsqu'elles sont réalisées. Ils sont les crimes à grande échelle. L'essor des réseaux sociaux ne permet plus aussi facilement de cacher les Nakba, les catastrophes, à l'opinion publique. Et pourtant, rien n'arrête le génocide en Palestine, encore aujourd'hui. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Alors même que cette nouvelle Nakba, cette nouvelle catastrophe, se déroule objectivement, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres, ça ne veut pas dire que le 7 octobre 2023 n'était pas une catastrophe, mais quand même, ça fait 2 ans qu'on assassine femmes et enfants et vieillards sous nos yeux. Cette nouvelle catastrophe se déroule donc objectivement sous nos yeux quotidiennement. En nous référant, comment c'est possible, juste. Il ne s'agit pas que des politiques, on est là nous aussi. Qu'est-ce qu'on en fait de ça, nous? Voilà, pour moi, la psychanalyse doit d'abord être une psychanalyse engagée, ou plutôt, les psychanalystes doivent nécessairement s'engager dans quelque chose qui n'est pas seulement... le manque d'engagement fait que la psychiatrie est complètement achevée. Là, hein. On est en train de mourir, hein. La psychanalyse est en train d'être attaquée de partout. Bref, s'engager d'une manière globale. S'inscrire dans les réalités sociales et politiques. Ne plus être dans des sphères méta, juste en survol des réalités. On les observe de loin, de très haut, sur des nuages de pensées, de concepts. Moi, j'ai décidé de faire un détour par Orwell, je vous le disais tout à l'heure. Orwell a créé une dystopie glaçante, 1984, et qu'il a rédigée, lui, en 1949. Alors, en réalité, quand nous observons le monde tel qu'il s'est déroulé depuis, hein, et en particulier en ce moment, enfin depuis quelque temps déjà, tout n'est plus que réalité, ce n'est plus de la fiction. Les mécanismes qu'il décrit sont bien présents. Ceux, il nous raconte des choses comme ça, hein, ceux qui persistent, il nous apprend-il, à penser par eux-mêmes, ne sont plus seulement critiqués ou isolés, ils sont requalifiés. Alors aujourd'hui, on est requalifié comment? Wokiste, islamo-gauchiste, indigéniste, s'il y a des caractéristiques un peu trop rabisantes ou un peu de crépus, les cheveux venus des îles ou je ne sais quoi. Là, on est plutôt indigéniste. Après, quand on est un peu plus blanc, comme ça, on est un peu plus islamo-gauchiste. On est dangereux aussi, mais ce n'est pas la même couleur. Alors, wokiste, islamo-gauchiste, indigéniste, etc. Voire même, si on n'est pas content de ce qui se passe, on vient soutenir les terroristes. La parole de ceux qui persistent à penser par eux-mêmes devient un indice suspicion, douteux. Le refus devient un symptôme. La lucidité est retournée comme preuve d'une supposée déviance, douteux. La dissidence, donc, n'est plus combattue sur le terrain politique ou idéologique. Elle est psychiatrisée, communautarisée, marginalisée en tout cas, potentiellement criminalisée. Ce qui est insupportable pour les agences de pouvoir, les gouvernements, les pouvoirs, enfin, je ne sais pas comment les nommer, ce n'est pas la souffrance, ceux qui dirigent en tout cas, nos dirigeants, oui, on va dire ça. Ce n'est pas la souffrance, c'est la pensée qui relie la souffrance à des causes politiques, sociales, historiques. Il ne faut pas que la souffrance soit liée à des causes politiques, sociales ou historiques. Donc, on individualise. Donc, on internalise. Donc, on transforme la révolte en trouble, la colère en dysrégulation et la lucidité en rigidité cognitive. Quand même, vous en parlez beaucoup de la colonisation, hein ? Oui. Je dois avoir un problème, en fait. Et d'autres comme moi, hein. Et trop souvent, les professionnels du psychisme, psychanalystes y compris, sont sommés de participer à ce travail de neutralisation. Sous couvert de soins, sous couvert d'aide, sous couvert de neutralité. Comment peut-on être neutre dans certaines situations, sérieusement ? Mais il faut le dire clairement. Lorsque la clinique sert à désamorcer la contestation, lorsqu'elle vise à reproduire ou à produire des sujets apaisés plutôt que des sujets pensants, alors elle cesse d'être clinique. Elle devient un instrument des gouvernements des âmes. Cette question prend un relief particulier pour les psychanalystes issus de la classe dominante, je l'appelais comme ça rapidement. Et ils sont majoritaires. Qui sont-ils ? Ceux que je nomme comme ça, c'est pas très joli, on va mettre des guillemets, d'accord, je pourrais essayer de trouver un autre mot plus tard. Ceux dont les filiations, les réseaux et affiliations sociales ou institutionnelles les placent nécessairement dans une situation de loyauté conflictuelle, ce sont ceux-là dont je parle, loyauté conflictuelle entre leur fonction de psychanalyste et leurs affiliations ou leur filiation qui les met en situation de devoir être loyaux envers nos communautés, nos groupes d'appartenance. Comment faire, là, face à ce conflit ? Le dilemme des brutales, rester fidèle à ses appartenances, à part accepter la doxa, protéger l'ordre établi, ou bien rester fidèle à la clinique, à la vérité, à l'humanité. C'est précisément dans ce conflit que réside la force éthique et politique de la psychanalyse en réalité. La loyauté sociale peut devenir un piège, mais elle peut être aussi le lieu où se mesure la courageuse singularité d'une pratique. Refuser la pathologisation de la dissidence, accueillir le trouble, écouter la parole qui dérange, c'est transformer cette tension entre appartenance et éthique en acte de résistance. Pathologiser la dissidence, c'est trahir l'humain, c'est trahir la vérité. C'est faire porter au sujet la responsabilité d'une violence qui le dépasse. Non, ce n'est pas de ma faute si ma filiation a été esclave. Je ne suis pas responsable de ça. Oui ? Non. C'est transformer l'injustice en vulnérabilité individuelle. L'injustice des groupes, des pouvoirs publics, l'injustice que subissent des communautés tout entières, des groupes sociaux tout entiers. Ce n'est pas une vulnérabilité individuelle. C'est la multiplicité des individus concernés par ce même groupe social qui deviennent vulnérables, oui, individuellement. Mais c'est tout le groupe qui est vulnérable. Comment fait-on de la psychanalyse avec du groupe ? Point d'interrogation. À cet endroit précis, pour moi, il n'y a plus de neutralité possible. Soit l'analyste succombe à la loyauté implicite envers sa communauté et devient un technicien de l'adaptation sociale. Ben oui, il faut intégrer les migrants. Hein. Il faut, je ne sais pas comment, blanchir les migrants. Hein. Je ne sais pas comment, etc., etc. Alors, je disais qu'il devient l'analyste, s'il succombe à cette loyauté implicite, qu'il devient un technicien de l'adaptation sociale et ou le descendant d'une filiation politiquement convaincue, un supplétif discret de la pacification. Soit il maintient un espace où le sujet peut dire, et alors on retrouve encore les pensées du couple d'Avoine-Godilière, d'une certaine manière. Ce n'est pas moi qui suis fou, d'une certaine manière, c'est ma traduction. Hein. Ce n'est pas moi qui suis fou, mais c'est ce qui m'est fait qui est fou. Maintenir une parole qui ne se laisse pas retourner en diagnostic, protéger le droit à la colère, au refus, au trouble face à l'inacceptable, devient un acte éthique radical, un acte de résistance. C'est là que la psychanalyse montre sa véritable puissance, non pas en corrigeant le monde, mais en empêchant qu'il ne se referme complètement sur lui-même. Tant que les analystes, même issus de la classe dominante, C'est normal. C'est juste, j'ai beaucoup parlé avant. Enfin, quand on parle, on prend beaucoup de temps avec des. Mais c'est très bien, c'est pas grave. J'ai dit l'essentiel, je crois. Voilà. En tout cas, se joue pour nous. Je vais passer des passages. Une responsabilité clinique, éthique et politique. Mais dans la réalité. Pas dans la théorie seulement, pas dans les livres seulement, dans la réalité. La violence du vécu des individus que l'on rencontre, qui ne sont plus des sujets parce qu'ils sont assujettis et ils sont nombreux, c'est dans la réalité. Et ce n'est pas seulement un par un dans nos consultations. Voilà. Je vais passer. Juste dire quand même que relisez Orwell, s'il vous plaît. Il faut le lire et le relire et le relire. On voit, il nous explique comment, c'est magnifique, comment justement les pouvoirs en place manipulent le langage pour l'abraser totalement. Et on sait, nous, les psys, que c'est très important, le langage, non ? Par exemple, rapidement, la guerre, c'est la paix. Et la paix, c'est la guerre, nous dit Orwell, en 1949. Vous avez vu, là, je disais tout à l'heure au déjeuner, Trump qui veut mettre en place un conseil de la paix à Gaza. Un conseil de la paix qui signifie un conseil de la guerre. Mais comment on utilise les mots dans le champ du pouvoir. Mais le plus dangereux, c'est que si je n'en parlais pas, personne n'en parlait, là, aujourd'hui, en tout cas. C'est ça que je veux dire aussi. C'est là où je dis, j'appelle à l'engagement. C'est-à-dire que la parole, il va falloir qu'on s'autorise à la prendre, nous aussi, à cesser de s'enfermer dans la peur, parce que la peur, c'est le premier acte pour Orwell, pour silencier les collectifs. Et il est vraiment extraordinaire. Hein, on abrase le langage, on en fait des inversions. Exemple type, dans ce qui s'est passé pour une petite fille qui est morte en Palestine récemment, eh bien, le journaliste qui a présenté cette affaire parlait de cette petite fille qui avait quoi ? Je ne sais plus quel âge, une toute petite fille, 5-6 ans. Il en parle et il dit « La jeune femme est décédée ». Il y a une psychiatre palestinienne d'ailleurs qui a développé un concept spécifique pour ça, c'est-à-dire la déshumanisation de la représentation de l'enfance qui permet d'assassiner. C'est « unchilding ». C'est difficile à traduire en français. « Unchilding ». Comment, via les mots, et on apprend ça, hein, il nous apprend ça à Orwell, on a oublié, c'est toujours là. Comment je peux tuer un enfant parce que dans mes représentations, celui qui est face à moi n'est plus un enfant. C'est une jeune femme. Les enfants ne sont pas des enfants égaux, partout. Ils ne sont pas des enfants partout. On fabrique des représentations et nous sommes tous fragiles, vulnérables avec les représentations collectives. Nous sommes tous susceptibles d'être modélisés par les représentations collectives. Ne croyons pas, quand on dit « je pense que l'on est seul dans ce jeu ». Nous sommes tous influencés par les représentations collectives que l'on tente de nous distiller. Alors ce travail-là pour les psychanalystes, comme pour tout citoyen, parce qu'un psychanalyste, ça n'est rien d'autre que le fils et la fille de son père, le fils ou la fille de son père et de sa mère, et donc d'une histoire filiale, et rien d'autre non plus qu'un être humain qui a mis une casquette de psychanalyste après avoir fait un travail sur soi, bien sûr. Mais quel travail ! Les dimensions collectives, politiques et les champs des représentations par lesquels on est pris sont rarement travaillés. Pour ça, il faut penser contre-transfert culturel, dans le champ du transculturel, ou encore savoir situer qui nous oblige à aller regarder du côté de nos affiliations. Voilà, je vous remercie. C'est le chewing-gum, hein.
Merci beaucoup, Monica, pour cet appel à l'engagement que nous participons. Et en t'écoutant, je pensais à Cécile Rousseau, une collègue québécoise, qui écrivait sur l'engagement clinique dans ces temps troublés, l'engagement, la politique de la clinique et la politique du clinicien, que la neutralité n'existe pas, que la position neutralité, en fait, c'est une prise de parti.
Supplétif, non. Non, enfin. Oui, merci Malika, on t'a invité et tu es à la hauteur de notre espoir de parler de cette histoire qui nous traverse. Bon, ça pose beaucoup de questions sur ce qui se passe effectivement en Palestine. Simona aussi nous en avait parlé au moment du séminaire. Qu'est-ce que ça nous dit et comment on peut se positionner par la parole, puisque je n'irai pas me battre en Palestine. Je voulais dire qu'on en parlait à midi avec nos amis, c'est que cette histoire-là, elle n'est pas finie, puisque nos jeunes mineurs non accompagnés nous en parlent, en fait, tu sais. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire qui est transmise. Et j'en avais parlé à Montréal d'une situation d'un jeune Camerounais qui m'a demandé d'ouvrir des bouquins d'histoire pour essayer de comprendre ce qu'il était en train de me dire de façon très très désordonnée. Enfin, ça l'a pas rendu moins délirant, mais bon, au moins j'avais appris quelque chose de l'histoire du Cameroun. La question des catégories. Donc on a eu le plaisir de parler avec Sama Jaber, qui est psychiatre et psychanalyste en Palestine, et qui nous disait combien les catégories du post-trauma étaient totalement construites dans des univers qui ne correspondaient pas du tout à la question de la guerre. Donc c'est important effectivement d'être précautionneux sur nos catégories qu'on utilise. Et la question que tu poses et que je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est comment retravailler nos affiliations, alors familiales bien sûr, transgénérationnelles aussi, mais toutes les autres aussi. Et ça, c'est, je crois que c'est pas très facile. Moi, je pense que c'est un travail collectif, quoi. On devrait être. Alors moi, j'ai fait un DU de médecine narrative, figure-toi, mais je t'avais passé mon mémoire, mais t'as pas dû le lire. Et où je propose un outil. Ça ne demande pas beaucoup de temps, mais bon.
Je vais le lire bientôt.
Tu vas le lire. Et qui est un outil collectif de lecture collective d'ouvrages qui parlent de ça, tu vois, et où on peut réfléchir par un phénomène réflexif. Hein, on n'a pas tous des affiliations algériennes, moins malgaches, mais ça n'empêche pas que tu as dit un truc, mais que je trouve très juste, c'est-à-dire comment rendre commun, comment partager une forme d'histoire. Parce que à ce moment-là, quand on partage ton histoire algérienne, l'histoire, eh bien, à ce moment-là, on se positionne, tu vois, et on retravaille quelque chose d'une histoire qu'on a. Alors, moi, l'histoire du Cameroun, je ne la connaissais pas, mais c'est nos patients qui nous permettent de rendre commune cette histoire, tu vois. Et je trouve ça très intéressant, parce que je pense que là, il y a matière à réfléchir en équipe de. Alors, de psy, comme tu dis, moi, je suis tout à fait d'accord, de psy, quel qu'il soit, mais qui pense que nous sommes traversés par ces histoires. Là. Donc voilà, merci beaucoup.
Et j'ajouterais que en clinique transculturelle, ben plus ça va, plus on parle de l'histoire et moins de la culture.
Pas moins. Il y a des questions là-bas. Mais juste, je voulais rebondir par rapport à ce que vous venez de dire. Et Claire en particulier, moi j'ai des doctorants formidables qui font des thèses extraordinaires, qui tentent justement de croiser toutes ces histoires collectives. Là, on a par exemple Kenza qui travaille sur la mémoire des anciens qui sont encore vivants. Et qui sont encore vivants et qui ont connu la colonisation, donc aller recueillir leurs témoignages avant qu'ils ne meurent. Mais ce n'est pas seulement les descendants de colonisés, ce sont les Juifs d'Algérie, ce sont les Pieds-Noirs, ce sont les appelés du contingent, tous ceux qui sont vivants et qui peuvent en dire quelque chose depuis leur place interne et comment on peut faire parler toutes ces données, la richesse des choses. Ou encore Christine qui travaille sur la mixité des enfants nés français d'un père et d'une mère en lien avec cette histoire collective complexe, donc conflictuelle nécessairement, et comment on se développe quand on a un parent algérien, un parent français, porteur de cette histoire qui n'est pas terminée en vérité. Bon, voilà. Et d'autres, plein de belles autres thèses, mais en lien avec la quête au fond. Je viens de le découvrir, ça, en écoutant Claire, une quête de mise en commun, au fond, pour dépasser tout ça un jour, quand même.
Merci. Oui, il y a une prise de parole.
Oui, bonjour. Agnès Veillant, j'ai beaucoup apprécié votre exposé, et ça m'a fait penser de façon assez précise au film qui a été fait sur Frantz Fanon par Abénor Zaza. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Je ne l'ai pas vu, non.
Il faut absolument
le voir. Que je le
vois. Sa sortie a été un peu perturbée par la sortie de l'autre biopic que tout le monde a vu sur Frantz Fanon, qui est une catastrophe pleine d'erreurs. Mais par contre, ce film d'Abdenour Zaza, qui s'appelle « Chronique fidèle survenue au siècle dernier à l'hôpital psychiatrique Blida-Joinville, au temps où le docteur Frantz Fanon était chef de la 5e division, entre 53 et 56 ». Moi, je l'ai vu plusieurs fois, c'est absolument magnifique, c'est un film en noir et blanc. Ils ont complètement reconstitué l'hôpital Blida, comme si c'était à l'époque. Et ce qui est très intéressant, c'est comment il accompagne les fous, ceux qui ont été fous, qui ont rencontré la folie à cause de la colonisation, et ceux qui ont, et la méthode qu'il emploie, tout ça, c'est magnifique. Bon, Frantz Fanon revenait de Saint-Alban à l'époque, quand il a été formé par Tosquelles, dont vous parliez aussi. Enfin bon. Mais ce qui était aussi très beau, c'est que c'est aussi le début de la guerre, là-bas, et il arrive à prendre en charge aussi ceux qui font subir la torture. Et donc, c'est très, très sobre, des plans très fixes, et c'est absolument magnifique sur le travail qui peut être fait par la psychiatrie pour accompagner et restaurer un peu. Voilà.
Oui, voilà, je prends rapidement la parole. Je suis Marc-André Coton, psychohistorien. Et il est vrai que tous les témoignages qui nous ont été rapportés me touchent sur divers plans, un plan personnel bien entendu, puisque j'ai fait un grand travail sur ma propre histoire, mais aussi en tant que président d'une association internationale de psychohistoire. Et en gros, qu'est-ce que c'est que la psychohistoire qui est assez méconnue en France ? Eh bien, c'est une discipline, on va dire, transversale, qui allie parmi mes collègues beaucoup de psychanalystes, de cliniciens, ainsi que des historiens, des gens justement qui essaient de donner un sens à l'histoire en prenant pour base la subjectivité des personnes qui sont traversées par l'histoire, qui traversent l'histoire. Et je pense qu'il y a là quelque chose d'important aussi pour nous autres cliniciens ou psychanalystes ou psy. Eh bien, c'est que dans nos cabinets, on va dire, eh bien, on rencontre cette subjectivité au cœur de l'enfant que nous avons été. C'est-à-dire que ce qui passe, ce qui se transmet, eh bien, c'est cette expérience vécue au contact des drames parentaux, familiaux ou plus largement, et qui sont transmis dans la postérité, quelque part, jusqu'à ce qu'ils soient reconnus, conscientisés, comme ça a été dit, qu'il soit marqué historiquement et reconnu comme tel. Et dès lors que ce travail de déconstruction se fait dans les cabinets, mais aussi dans les réunions de travail que nous pouvons avoir, lorsque la parole se délie, eh bien, il y a un phénomène, bien entendu, de guérison. Je pense que c'est une guérison individuelle, bien sûr, familiale aussi, mais également une guérison, je dirais, collective. Et donc, voilà, je voulais simplement, comment dire, partager l'existence de cette discipline méconnue.
Merci, Marc-André. Oui ?
Je prends son contact. Oui, bonjour. Déjà, merci beaucoup pour votre intervention. Ils sont toujours touchantes. Ce qui était, enfin, je pense, le plus puissant pour moi quand vous avez parlé de l'actuel et du passé, parce que parfois je sens que c'est pas si facile, mais on arrive à prendre position par rapport à des événements du passé, du colonialisme du passé, alors que l'actuel, c'est encore très difficile de prendre position. Et quand je vois parfois des travaux en psy sur la question de la Palestine, on omet vraiment l'histoire, on parle des pulsions destructives, de pulsions de mort, sans parler d'histoire, sans parler de rapports de force, de domination. Et voilà, je trouve qu'il y a toujours cet aveuglement du réel en fait, qui explique aussi ce qui se passe. Et dans la continuité, je sais que je suis un peu déçue parfois par les institutions de soins. Il y a eu une annonce une fois après 7 octobre, c'était je ne sais pas quelle période, mais que les portes sont ouvertes dans notre institution, par rapport à l'annonce, aux Israéliens pour traiter leur trauma, sans évoquer du tout ni les Palestiniens, ni. Enfin voilà, du coup, moi je me suis quand même. Enfin, j'ai dit quand même que ce n'est pas possible. Déjà, je sais que toute institution n'est pas neutre. Et d'office en proposition, en fait. Et du coup, quand j'ai pointé en fait, du fait que, oui, mais les Palestiniens, ils vont où les parce qu'à l'époque, il y avait des Palestiniens qui ont été répatriés de la Palestine. Répatriés de la Palestine, qui étaient aussi français, en fait. Et ils m'ont dit, j'ai une réponse, que ces personnes-là, il y a certaines associations qui les aident, ces personnes-là. C'est une institution où il y a même un dispositif transculturel dedans. Donc, ça montre aussi.
Lequel ? Dites.
Non, je ne peux pas.
Je blague.
Non, je ne peux pas.
Pour détendre.
mais ça montre aussi à quel point, l'actuel, c'est très difficile à penser. Les points d'aveuglement, ils sont toujours là. On cite Fanon, mais. voilà. Ouais. Merci.
Juste dire une anecdote qui n'en est pas une, hein, mais quand on a interviewé Germaine Tillon, je ne sais pas si vous voyez Germaine Tillon, pour qui j'ai une très très grande admiration, qui avait produit un livre sur l'Algérie, donc c'était dans les années, c'était en 58, où elle est allée, elle a décrit la paupérisation de l'Algérie. Et donc on avait été l'interviewer avec Marie-Rose Moreau donc quelques années avant sa mort. Elle avait encore une très très bonne mémoire. Et quand on lui a dit « et le colonialisme ?», elle a dit « je n'avais pas mesuré l'importance de ce croque-mitaine ». Je me rappelle très très bien. C'est-à-dire qu'effectivement, et franchement, on ne peut pas comment dirais-je, c'est difficile de critiquer ça parce qu'elle a, elle a été celui qui vient de mourir, l'historien là, qui vient de mourir, l'historien algérien. Enfin, je dirais, elle a pris des positions courageuses. Elle a été très courageuse et néanmoins, elle n'avait pas pris la mesure de ce croque-mitaine.
Oui, alors juste, elle est morte en quelle année, Germaine Tillion? Je me rappelle plus. Parce que j'ai l'impression d'un fantasme, mais c'est une réalité ce que je vais dire là.
Ben attends, je vais te dire, mais vas-y, parle.
Parce que Germaine Tillion m'a écrit après ma thèse, moi. Et ouais, parce que c'était le premier travail quand même qui venait. Et effectivement, elle était formidable dans cette lettre. J'espère que je vais la retrouver, du coup. Une lettre où elle disait combien elle avait été effectivement dans l'impossibilité de penser la réalité du contexte. C'est pourtant une grande dame, hein, oui.
Mais c'est vrai que la psychanalyse, les sciences humaines et les sciences sociales partagent aussi, dans une certaine mesure, cet aveuglement. Doris Bonnet, par exemple, m'a dit que jamais, africaniste, qui a travaillé des années en Afrique, et ses collègues, jamais ils ont problématisé la question de la colonisation. Ah, dernier, un petit mot. Allez, un dernier mot.
Ok, très vite alors.
Brésilienne, ça ne se fait pas de lui couper la parole.
Ok, très vite alors, mais je voulais remercier pour le partage, c'était incroyable. Et aussi, ça m'a fait beaucoup penser sur les impacts, pas seulement genre, sur le positionnement sur la Palestine, mais les impacts sur la dynamique à Paris, quoi. Genre les discours qu'on a et les dissonances cognitives avec lesquelles on traite la violence des pays européens et la violence des pays africains. La violence des pays arabes, genre, ça fait moins d'un siècle qu'on a la conquête de l'Algérie, on a l'Holocauste, et quand même, on n'écoute pas les gens parler que les Français sont des abrutis, qu'ils sont des gens non civilisés, ou même les je ne veux pas dire qu'ils...
Non, on vous a compris.
Mais on n'entend pas ça, on n'entend pas ça de l'Allemagne, mais on entend ça des pays d'origine arabe. Donc, c'est quoi cette dissonance cognitive? Et ça a des très forts impacts sur les communautés à Paris, ici, dans notre ville.
Bon, merci.
Merci. Ah, bon, dernière. Hein.
Moi, je vais peut-être m'exprimer d'une manière un peu sur un ton un peu différent. Je crois que j'étais assez mal à l'aise pendant cette intervention parce que c'est des sujets qui m'importent énormément et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de pédagogie dans votre intervention et je pense que c'est quelque chose de nécessaire. Mais des fois, j'ai un peu peur qu'il y ait quelque chose de qui aille chercher une forme de culpabilité blanche chez les personnes et qu'on parle peu de clinique. Et c'est vrai que je pense que j'ai une petite frustration par rapport au fait de mettre un point d'honneur à ne pas être dans quelque chose d'être pas trop dans le méta, dans quelque chose de peu concret, et au final, j'ai l'impression d'avoir eu peu d'éléments sur la clinique actuelle. Qu'est-ce qui aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui traverse les personnes, quelle est la souffrance concrète, et qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qu'on entend, et qu'est-ce qu'on fait là en ce moment. Voilà, j'ai un petit manquement.
Tu peux répondre, vas-y.
Ouais. Moi, je vous renverrai bien au livre de Malika Mansouri sur les émeutes dans l'Hexagone, qui parlait des émeutes de 2005. Et si on le relit aujourd'hui, eh bien, on comprend les comportements, ce qui se dit sur les émeutes de 2023. Tout est déjà dit dans son livre. Tu
veux dire quelque chose ? Oui, j'ai juste envie d'ajouter que en savoir quelque chose, c'est pouvoir écouter avec ce savoir intériorisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je comprends ce que vous voulez dire, hein. Mais le 1+1+1, c'est compliqué. Ce qu'il faut là, dans mon propos, c'est penser quelque chose du collectif, ce que propose Claire Mestre, justement, de réfléchir à quelque chose de plus collectif, comme ce qui est en train de se passer là. Maintenant, si vous êtes face à quelqu'un qui connaît ça, il suffit d'être en capacité de pouvoir l'entendre. J'ai un patient un jeune patient qui était toujours très en colère, toujours, partout, tout le temps, se faisant exclure de partout, toujours très en colère. Et il a fait, je ne sais pas, une bonne dizaine d'années d'analyse sur le divan. Et puis un jour, il est venu me voir et je n'ai rien fait d'autre que l'écouter comme une psychanalyste écoute. Mais j'écoutais sa colère. C'était l'histoire du corps. Je vibrais cette colère. J'entendais de l'intérieur sa colère. Et bizarrement, au bout de quelques mois, 2-3 ans, pas très longtemps, c'est bizarre, je ne suis moins en colère. Maintenant, je suis triste. Voilà, c'est tout ce que je peux vous répondre.
Merci. Non, donc...